Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Hier, c'était le 11 septembre, bon, une date qui nous a marqué à chaque année quand cette date-là, on se rappelle ce qui s'est passé, les tours jumelles qui se sont effondrées, l'attaque terroriste. Et cet événement-là qui nous marque, il y a un livre qui est paru, qui est très intéressant sur le sujet. Et il y a Luc Laliberté, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, analyste, tout ce qui est politique américaine, qui a écrit dessus. Le livre s'appelle « Le seul avion dans le ciel » et Luc est avec nous. Bonjour Luc.
Oui, bonjour François-David.
Très intéressant l'article. Et peux-tu expliquer un peu qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Pourquoi on dit « Le seul avion dans le ciel »
Ouais, voilà, écoute, c'est intéressant parce que souvent, ça fait déjà 19 ans, hein, mine de rien, j'accuse mon âge parce que j'étais déjà enseignant quand ça s'est produit. Puis je me souviens d'avoir assisté à ça avec mes étudiants. Je donnais un cours sur la politique étrangère, puis je les entraînais avec moi. À l'époque, il n'y avait même pas Internet en classe. On va à la salle d'audiovisuel, puis je complète finalement mon cours sur la politique étrangère, mais en même temps qu'on couvre live, là, en classe, les événements. Les gens se rappellent peut-être pas les plus vieux, ceux qui étaient adolescents à l'époque probablement, mais les autres se souviennent peut-être pas à quel point ça a été soudain et qu'on se doutait pas, qu'on se doutait depuis quelques années, il y avait eu des alertes. Il y avait déjà eu un attentat d'ailleurs contre le World Trade Center au début des années 90.
Ouais.
Mais ce matin-là, quand les deux tours tombent à tour de rôle, on n'imagine pas à quel point c'est surprenant, c'est déstabilisant pour tout le monde.
Comme je crois que tu l'as écrit, tout le monde se rappelle cette journée-là, où on était, qu'est-ce qu'on faisait. Et voilà. Moi, je pensais que c'était une blague, là. Je pensais que c'était un film, là. On croyait pas trop ce qui se passait.
Voilà, puis la surprise que le livre raconte, puis ce que je raconte dans le billet d'hier, dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, c'est un peu ça, c'est que la surprise, elle est grande pour le président aussi. Et ce qu'a fait le journaliste qui a rédigé le bouquin, le seul avion dans le ciel, c'est que lui, il a rencontré des gens qui étaient à bord de l'avion présidentiel quand on a évacué le président. Et ces gens-là se confient sur le déroulement de la journée. Mm-hmm. Ils faisaient le matin au réveil. Que faisait-il pendant que, on se souvient peut-être que le président Bush était à faire la lecture à de jeunes enfants dans une école.
OK, explique ça, comment ça s'est passé pour lui, là.
Voilà. Donc, le matin du 11 septembre, le président, il apprend le détail des événements, finalement, après ceux qui étaient à l'écoute. Et quand on se lève ce matin-là, parce qu'à bord de l'avion présidentiel, les gens s'en doutent peut-être, là, on voit ça dans les séries ou dans des films, il y a toutes sortes de gens à l'intérieur de l'avion présidentiel. Il y a les membres d'équipage, il y a le président, bien sûr, mais à ce moment-là, ceux qui vont le suivre, là, il y a son chef de cabinet, il y a son conseiller à la sécurité nationale, il y a quelqu'un de la CIA qui est là pour faire toujours ce qu'on appelle un briefing, une petite mise à jour, un compte rendu des dossiers chauds. Il y a des représentants de la Chambre des représentants, il y a des journalistes. Donc, il y a beaucoup de monde dans la caravane qui accompagne le président. Okay. Et tout le monde est unanime ce matin-là, autant les journalistes que l'entourage du président. On s'attend à une petite journée. On est en Floride, il n'y a pas de sujet chaud. Les journalistes disent, on n'a même pas envoyé nos meilleurs journalistes, ou en tout cas ceux qui habituellement couvrent les nouvelles les plus importantes. On a envoyé finalement, entre guillemets, le personnel qui couvre les affaires courantes, juste pour être certain que rien ne nous échappe. Mais il n'y a personne qui s'attend à ce qu'on défraie la nouvelle cette journée-là. Le président est en train de parler à des jeunes, et là, il y a un membre de son entourage immédiat qui décide, puis il faut vraiment imaginer, on n'interrompt pas le président dans une rencontre avec des jeunes, à moins que ce ne soit
maintenant. Ah ouais.
Et là, on va l'avertir que les tours sont tombées, mais que le personnel de sécurité oblige tout ce beau monde-là à retourner vers Air Force One, qui est l'avion présidentiel. Et l'avion, on a déjà mis les moteurs en marche. Donc là, on a des commentaires du commandant, de l'équipe en vol, puis de tout ce beau monde-là qui disent « c'était pas prévu ».
Puis c'est l'urgence, là, quand ça arrive.
C'est ça, c'est une urgence. Et parmi les premières questions, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on oublie souvent que le président, en cas d'attaque comme ça, il n'a pas le dernier mot sur tout, entre autres sur sa sécurité. Mm-hmm. Donc, oui, c'est quelqu'un dont on attend le point de vue, puis il doit être informé idéalement à la seconde près du fil des événements. Mais quand George W. Bush se retrouve à bord de l'avion présidentiel, la première chose qu'il veut faire, et c'est ce qu'il avait dit dans une petite allocution qu'il prononce avant de quitter l'école où il faisait la lecture, il dit « Je m'en vais à Washington ». Et tout le monde autour, dans leur tête, ce que ça fait, c'est « Monsieur le Président, vous le savez pas ». Il paraît que pendant toute la durée de ce très, très long vol, parce qu'on va être plusieurs heures dans le ciel, on va juger que c'est là où le président est le plus en sécurité. On dit que le président Bush a littéralement harcelé ses responsables des renseignements secrets puis de la sécurité pour aller à la Maison-Blanche. Ce que le président dit, c'est « on est sous attaque et la meilleure façon de parler aux Américains, de leur expliquer ou de les rassurer, c'est que je me trouve à la Maison-Blanche à laquelle on associe le siège du pouvoir. » Et la sécurité va dire « Monsieur le Président, vous allez faire ça à partir d'ici parce que notre mandat, selon les lois, c'est de vous garder en vie. Puis l'envie, ben, on considère qu'aller vous poser à Washington, ça fait de vous une cible beaucoup trop facile. Puis en passant, ben, vous le savez, il y a un avion qui vient de rentrer dans le Pentagone. Donc, le département de la Défense est atteint.
Comme on dit, c'était pas une bonne idée, là.
Non, voilà. Donc, c'est grosso modo, on va pas vous faire atterrir là. Vous êtes beaucoup trop en vue. Puis on sait pas d'ailleurs d'où peut venir s'il y a d'autres menaces. Parce que ça aussi, des années plus tard, c'est facile. On le sait maintenant combien il y a d'avions, hein. Puis, grosso modo, ce qui s'est déroulé, même s'il reste quelque part d'onde. Quand le président embarque dans l'avion, là, on pense même qu'Air Force One peut être une cible. Ben les journalistes racontent qu'on leur a demandé d'enlever les piles de leur téléphone pour éviter d'être traqués ou suivis. Hein, donc, c'est impressionnant quand ces gens-là disent on n'a pas d'idée où on s'en va, ni pour combien de temps on s'en va. Mm-hmm. On a stocké de la nourriture, puis ensuite, oui, il y a le président, mais le président est souvent même pas le premier informé. On se rend compte, par exemple, que les communications avec Dick Cheney ou avec la cellule de crise qu'on imagine à la Maison-Blanche, hein, on voit ça aussi dans les séries, la fameuse Situation Room, hein, l'endroit où on gère les cochons. Il y a des gens qui sont rassemblés là, puis c'est encore le président Bush qui dirige, même s'il est dans l'avion présidentiel puis qu'on le protège, c'est pas le vice-président qui décide. Donc, on doit s'assurer d'un canal de communication qui soit le plus efficace possible pour que le président puisse donner son aval ou pas à des décisions majeures qu'on est sur le point de prendre. On attend une réponse américaine à ces attaques-là.
OK, je comprends. C'est vraiment l'urgence. Lui, il doit... Puis c'est ça, il faut le protéger à tout prix. Mais il ne savait pas... Puis tu le dis bien aussi, c'est qu'à ce moment-là, ils n'ont aucune idée de l'ampleur de l'attaque, là, si il y a d'autres choses qui vont suivre, là.
Voilà, puis il faut imaginer, hein, parce que le président, à l'époque, il n'est pas assis constamment devant son téléviseur. Il a des fonctions officielles ou il a des activités prévues dans sa journée. On raconte, par exemple, au sein du membre du personnel qu'on va apprendre avant le président que la deuxième tour est tombée. Mm-hmm. Et tout le monde, du moins en tout cas des témoignages que le journaliste a recueillis, tout le monde a un malaise. On ne devrait pas savoir ça avant le président des États-Unis. Mais tout ça déboule tellement vite. Hein, les événements succèdent, puis il y a 4 avions qui sont lancés cette journée-là. Le Pentagone, l'avion qui s'écrase en Pennsylvanie. Ouais. Hier, d'ailleurs, Biden et Trump se sont rendus en Pennsylvanie pour commémorer la mémoire de ces gens-là. Puis il y a bien entendu les deux avions. Donc, on ne connaît pas encore l'étendue des frappes. On ne sait pas si ça se limite à ces 4 avions-là ou s'il y en a d'autres.
Parce que là, justement, on parlait de la Maison-Blanche, le président qui voulait aller là. Parce qu'on se rappelle qu'il y aurait un équipage là, qui aurait empêché un avion de frapper sa cible. C'était la maison. On sait-tu c'était quoi la cible de cet avion-là?
Ben voilà, tu vois, l'avion, non, c'est-à-dire qu'on a toujours prétendu par la suite que c'est la Maison-Blanche qui était la prochaine cible. Okay. En tout cas, on visait des symboles importants. Tu vois, le World Trade Center, c'était un centre économique majeur. Bien sûr, la défense américaine, ben c'est le Pentagone. Mm-hmm. Après, ce qu'on peut penser comme cible symbolique très forte, c'est soit le Congrès, soit la Maison-Blanche. Mais tu vois, quand tu parles de cet avion-là qui s'est écrasé en Pennsylvanie, on a fini par confirmer que c'était des passagers qui s'étaient rebellés puis qui finalement ont provoqué la chute de cet avion-là. Mm-hmm. Mais pendant un certain temps, à bord d'Air Force One, il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que c'est nous qui l'avons fait tomber, nous, le gouvernement? Est-ce que quelqu'un au sein du gouvernement, ça devrait être le président, a ordonné qu'on abatte cet avion-là, même s'il y avait des civils à bord, parce qu'il était aux mains des terroristes? Donc, on nous raconte ce doute-là qui a plané pendant longtemps. avant qu'on puisse dire à tout le monde, non, écoutez, ce sont des gens qui abordent l'avion. C'est une mutinerie, finalement, qu'on a fait. Puis, on a réussi à faire crasher ou atterrir de force. Il s'est écrasé, finalement.
Ben oui.
Et l'avion ailleurs. Mais c'est dire à quel point, hein, il y avait une part d'inconnu et d'incertitude là-dedans. Donc, on imagine parfois à quel point le gouvernement, c'est gros, à quel point la hiérarchie, elle est lourde, à quel point tout est décidé, prévu, planifié. Mm-hmm. Ce qu'on sent très bien dans le récit du journaliste, c'est à quel point on est pris de court puis qu'on doit s'ajuster très rapidement à quelque chose qui apparaissait dans aucun des comptes rendus, ni du FBI, ni de la CIA.
Ah non, c'est l'alarme, j'imagine. Et pour finir, Luc, le titre de Only Plane in the Sky, puis c'est Garrett M. Kraft. C'est le titre, justement, c'est-tu moi qui est trop lent, ça vient de... Pourquoi on dit le seul avion dans le ciel?
Non, c'est et c'est pour bien marquer le choc, c'est que tu te souviendras peut-être, le Canada a accueilli des avions, par exemple, ici, on a même tiré une comédie musicale qui a eu un certain succès aux États-Unis, là. Mm-hmm. C'est qu'on a demandé en urgence de cesser tous les vols.
Okay,
et là, ben, il a fallu trouver des mesures d'urgence pour que ces avions-là puissent aller se réfugier, soient accueillis, puis on savait pas combien de temps ça allait durer non plus. Donc, pendant un certain temps, c'est Air Force One qui était le seul avion dans le ciel.
Okay.
Et on l'a mené le plus haut possible. On est allé au maximum d'altitude de l'avion. Mm-hmm. Et on se disait, bon, on espère que là, on est en sécurité. Mais ça rappelle à plusieurs d'entre nous à quel point certains aéroports ont été débordés ou que des aéroports de fortune ont dû s'adapter à recevoir beaucoup de clientèle en provenance de différents pays, de différentes cultures.
Ça
parce
doit.
On ne sait pas trop ce qui va se passer aux États-Unis.
Ben oui, méchant chamboulement. En tout cas, j'invite les gens à aller te lire dans le Journal de Montréal ou de Québec, le seul avion dans le ciel. Et il y a le livre aussi pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais c'était très intéressant. Puis, ben, on en parlera. Je sais que rapidement aujourd'hui, là, je pense qu'il n'y a pas de piquage politique, là. Il y a comme un respect pour en deuil de ces victimes-là aux États-Unis. Là. Il n'y a pas d'attaque politique.
Voilà.
Tu
vois, c'est un peu ce que j'ai fait avec mon article d'hier. Comme le 11 septembre, on commémore puis qu'on fait officiellement une trêve politique, ben je me suis dit, tiens, comme blogueur, je vais m'abstenir de commenter moi aussi la politique américaine.
Ah, c'est
je
bon.
Je vais plutôt me replonger un peu dans le contexte du 11 septembre. Puis c'est ça qui ça a été finalement le fil conducteur ou la logique qui m'a poussé à rédiger ce petit billet-là.
Bon, ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Luc Laliberté. Bonne journée.
Avec plaisir, François-David.
Bye-bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même poste, comme on dit. Et posez vos questions, 187 Cube Radio sur le Facebook. On y répondra. Bye-bye.